Vous écoutez France Musique.
Je reviens de Versailles, tout est grand, tout est magnifique, et la musique et la danse sont dans leur perfection. Voilà comment, en 1683, Madame de Sévigné rend compte de sa visite au tout nouveau château de Versailles, un an après que Louis XIV ait décidé d'y installer la cour et le pouvoir central. 330 ans après, le château de Versailles, 2300 pièces, 32 hectares de pelouse, 55 bassins et fontaines, arrive en quatrième position des sites les plus visités de France, avec 6,75 millions de visiteurs en 2011, dont 20% de spectateurs, montant d'une journée de recettes au château entre 10 000 et 30 000 euros. 330 ans après la visite de Madame de Sévigné, la musique et la danse sont plus que jamais présents à Versailles, de la Galerie des Glaces au bassin de l'Atone, en passant par l'Opéra, la Chapelle Royale et l'Hôtel des Menus Plaisirs qui abrita en 1789 la Déclaration des Droits de l'Homme et où siège depuis 1996 le Centre de Musique Baroque. 330 ans après, nos finances publiques n'étant plus aussi prodigues en matière artistique qu'elles le furent sous le Roi Soleil, le château multiplie les initiatives pour pallier quelques baisses de subventions et développe à tout craint le mécénat, en particulier la filiale spectacle de l'établissement, qui propose environ 180 manifestations par an sans bénéficier d'aucune aide publique. Quelle programmation bâtir à Versailles? Quelle musique? Dans quel lieu? À quelles conditions? Et pour quel public? Réponse dans quelques instants. Avec ce spécial Versailles, en compagnie de Marie-Hélène Duvigneau et de nos deux invités, Laurent Brunner et Hervé Burkel de Tell, pour ce nouveau numéro de 30 minutes d'entracte. Un extrait du Te Deum de Marc-Antoine Charpentier par Les Agréments et la Fenice, dirigé par Jean Tubéry. Cet extrait d'une compilation des splendeurs de la musique sacrée sous Louis XIV à la gloire de Dieu et du roi. C'est paru chez Elfa, coédition Château de Versailles Spectacle. Il y a deux autres disques qui sont parus, musique de cour et d'opéra pour Louis XIV et enfin Deux siècles d'orgue chez le même éditeur. Aujourd'hui, sur France Musique, dans 30 minutes d'entracte, on parle de la musique à Versailles. Quelle place occupe la musique à Versailles? Quel spectacle va-t-on y voir en compagnie de deux invités. Laurent Brunner, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur depuis 2009 de Château Versailles Spectacle, qui est une filiale de l'établissement du Château de Versailles. C'est vous qui êtes en charge des fêtes de la nuit qu'on peut aller voir à partir de la fin juin au Château de Versailles, les grandes zones nocturnes. C'est vous qui êtes également responsable, votre filiale, cette filiale Château Versailles Spectacle, de la programmation de l'Opéra Royal de Versailles, dont vous nous direz quelques mots sur la saison prochaine dans quelques instants. À vos côtés, Hervé Burkel de Tell, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis 2005 directeur général du Centre de musique baroque de Versailles, une structure qui, elle, a été créée en 1987 sous l'impulsion de Philippe Bossan, qui a pour mission de retrouver, restaurer, éditer et diffuser le patrimoine musical français des 17e et 18e siècles. Et puis vous produisez, vous coproduisez des concerts et des opéras. Non, c'est pas ça, vous...
Oui, on en parlera.
On en parlera tout à l'heure, puisqu'on peut bien sûr entendre des concerts du CMBV à l'Opéra Royal de Versailles. Et puis, comme tous les samedis, il y a Marie-Hélène Duvigneau. Bonjour Marie-Hélène.
Bonjour.
Et avant, enfin, il y a une époque où il n'y avait pas de musique à Versailles, une époque à Versailles où il n'y avait même pas de château.
Oui, mais effectivement, une vie avant le château de Versailles, même si la ville telle qu'on la connaît aujourd'hui, née de la volonté d'un roi, est une création artificielle. Il ne subsiste rien du village ancien qui a été détruit pour permettre l'aménagement souhaité par Louis XIV. Un village né vers le milieu du XIe siècle. La première mention attestée de Versailles date de 1037. Son activité agricole et sa position sur la route de Paris à la Normandie en font un village prospère jusqu'au XIIIe siècle. La peste noire et la guerre de Cent Ans ravagent le village au XIVe et ce n'est qu'au XVe siècle que Versailles commence à se reconstruire avec une population de seulement 100 habitants. Propriété des Gondis à partir de 1572, Versailles attire l'attention du jeune Louis XIII, souvent invité sur place à des parties de chasse dans les vastes forêts des environs. À l'époque, sur le terrain de l'actuel château, il n'y a qu'un simple moulin à vent. Louis XIII le fait détruire en 1623 pour y construire un pavillon de chasse. À cause de sa petite taille, ce premier château est surnommé le chétif château ou encore le château de cartes à cause de ses couleurs, des briques rouges, un toit d'ardoise noire et de la pierre blanche. La construction d'un deuxième château n'interviendra qu'après 1632, lorsque Louis XIII achète la totalité de la seigneurie de Versailles à Jean-François de Gondi, archevêque de Paris. Mais à la mort du roi en 1643, le village de Versailles avait encore peu changé. Louis XIV va tout bouleverser, même s'il lui faudra plusieurs années pour s'intéresser à Versailles. Le jeune monarque préfère aller chasser à Vincennes. Ce n'est qu'après son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, avec qui il va en octobre 1660 prendre le divertissement de la chasse, comme on dit à l'époque, que son intérêt pour le domaine de son père prend un tour explicite. Il lance alors les premiers aménagements, en commençant par les jardins. Quant aux premiers travaux qui donneront le jour au château tel qu'on le connaît aujourd'hui, ils débutent en 1664 et c'est le 6 mai 1682 que le roi et sa cour s'installent à Versailles. Le vieux village ayant été détruit en 1673 pour laisser la place à une ville qui, selon les normes de l'époque, était très moderne. Elle a d'ailleurs servi de modèle pour la construction de Washington.
Merci Marie-Hélène Duvigneau. Laurent Brunner, à part l'Opéra Royal qu'on connaît, enfin, qui était ce lieu sublime, dans combien de lieux à peu près peut-on aller entendre de la musique à Versailles ?
Oh, dans beaucoup de lieux.
Ouais.
Dans la chapelle royale, qui est un endroit lui aussi prestigieux et magique pour la musique sacrée. Dans la Galerie des Glaces, où nous faisons entre 1 et 3 concerts par année, peut-être quelques fois plus. Dans d'autres espaces qui sont moins connus du public, la Galerie des Batailles, ou cette année d'autres espaces qu'on va choisir dans des appartements pour faire, avec le centre, dans le cadre de l'année Rameau, des concerts de musique de chambre. Le clavecin chambriste a peu de place dans les grands espaces, il faut trouver des espaces plus restreints. Et l'appartement de la Dauphine, par exemple, le rez-de-chaussée du château sera tout à fait efficace pour cela. Ou bien à Trianon, on vient de jouer avec William Christie, sous le péristyle de Trianon.
Ouais.
C'était magnifique et il pleuvait d'ailleurs autour, il y a des jours comme cela. Mais on est aussi régulièrement amené à jouer dans ce qu'on appelle la galerie dite des Cotels, une galerie voulue par Louis XIV. Et je pense que voilà, il y a une multiplicité d'espaces, d'autres possibles bien sûr.
Ouais. Dans la Galerie des Glaces, on peut accueillir combien de spectateurs à peu près ?
À peu près 700.
700, oui. Ça sonne comment ?
Ça sonne bien,
ouais.
Assez généreux et on entend bien jusqu'au fond. On voit moins bien parce qu'il y a un effet tuyau. On n'est pas tellement plus loin que quand on est à Pleyel au fond. Mais psychologiquement, c'est plus étroit. Par contre, le cadre est magique,
ouais.
Absolument magique.
Ouais, ouais. À l'hôtel des Menus Plaisirs, siège du Centre de musique baroque, on donne des concerts ou pas ?
Pas du tout. Le siège du Centre de musique baroque est un lieu de travail, de recherche, d'édition et de formation. Puisqu'on y a, une école permanente autour de la voix.
Combien de personnes environ travaillent au CMBV ?
Un peu plus de 50 personnes.
Ouais, ouais. Comment travaillez-vous l'un et l'autre ensemble ? C'est le Centre de musique baroque de Versailles qui décide de qui propose à Château de Versailles spectacle que représente Laurent Brunner, un certain répertoire, ou comment ça se passe ?
Non, je crois que les choses sont en fait très simples. Laurent Brunner dirige Château de Versailles Spectacle, et Château de Versailles Spectacle est le programmateur de Versailles. Mmh. C'est lui qui a en quelque sorte décide de la programmation artistique et de l'animation musicale du Château de Versailles. Le Centre de musique baroque est l'institution française voulue par le ministère de la Culture pour en effet redécouvrir et valoriser un patrimoine musical, celui des XVIIe et XVIIIe siècles. Alors évidemment, nous produisons du coup des concerts et des spectacles.
Parce qu'il faut préciser qu'il y a une partie, il y a des chercheurs évidemment, oui, au CMBV, oui. Le CMBV, le Centre de musique baroque de Versailles, des chercheurs, et puis des musiciens, des interprètes, qui sont rattachés au CMBV.
Pas exactement. Non. Nous avons un pôle recherche, ouais. Nous avons un pôle de production artistique, j'en parlais un instant, et un pôle de formation dont est issu un chœur, en effet. Mais nous n'avons pas, à proprement parler, de force artistique permanente. Nous travaillons avec tous les orchestres baroques de France, de Navarre et d'Europe. Donc, pour revenir aux productions artistiques, puisque c'était votre question, nous produisons avec des partenaires coproducteurs des concerts et des spectacles. Et nous les proposons, et nous travaillons ensemble avec Château de Versailles Spectacle pour que ceci soit programmé, compte tenu de l'adéquation entre les lieux et le patrimoine à Versailles. J'ajouterai deux choses. Un, Versailles est pour nous un lieu de programmation privilégié, compte tenu de ce que je viens de dire. La deuxième chose qui vient tempérer cela, ce n'est pas le seul lieu de programmation, oui, des productions du Centre de musique baroque de Versailles.
Vous avez beaucoup de concerts en dehors.
Un producteur, un programmateur, oui. Ce sont deux métiers complémentaires.
Marie-Hélène.
Alors, au-delà justement de ces propositions de programmation, comment vous décidez de votre programmation à Versailles ?
Ensemble ?
Vous décidez.
Vous déjà, oui.
Voilà, vous, comment vous décidez au-delà de ces propositions ?
Ah bah avec des règles qui sont anciennes. La première, c'est un métier. Donc on a de l'expérience musicale, l'un et l'autre, et on choisit un spectacle en fonction de choses qu'on peut considérer comme le flair, par exemple. Ça compte beaucoup. La deuxième réalité, c'est que c'est à Versailles, donc il faut que ce soit d'un premier niveau de qualité, à la fois dans l'œuvre et dans les interprètes. Je crois que là, il y a une question d'excellence qui va bien avec ce château et qu'on ne peut pas déparer. Un troisième élément pour moi est important, c'est qu'il ne faut pas que ça ennuie le public. On peut faire des propositions qui sont didactiques, mais elles auront peut-être leur place à d'autres endroits. Et à Versailles, les gens viennent aussi, ou peut-être même majoritairement, pour trouver dans un lieu somptueux des programmes qui vont leur rappeler un peu Louis XIV. Je simplifie beaucoup, mais il y a une réalité de cela. Et c'est une chose fondamentale pour moi. Si je m'ennuie, je pense que le public s'ennuiera aussi. Ça ne veut pas dire que la musique n'est pas bonne, mais quelquefois, elle n'est peut-être pas à sa place à cet endroit-là. Et des choses qu'on peut écouter au disque sont peut-être moins faciles au concert. Enfin, il y a une problématique de sens. Le lieu, on en parlait tout à l'heure. Oui, moi, la musique sacrée, je la mets à la chapelle. Je pense que c'est normal. La musique profane, elle a plus sa place à l'opéra. Et puis certaines choses, dans la Galerie des Glaces, bon, on va plutôt mettre une musique qui sonne. Et si on peut, on va mettre une grande voix. Ouais, et avant-hier, c'était Bartoli et Lemieux. Je crois que ça, c'est des voix, ça sonne, c'est des endroits pour ça. Et enfin, dernière chose qui est absolument majeure, il faut que ça rentre dans le budget, il faut que ça rentre dans la technique, et il faut que ça rentre dans le calendrier. C'est la raison pour laquelle la moitié des projets dont on rêve tous ne se feront jamais. C'est qu'ils ne peuvent pas trouver leur place dans un calendrier, le nôtre et celui du tourneur. Ils ne peuvent pas trouver leur place techniquement, c'est trop gros, ça ne va pas. Ou bien, tout simplement, le budget n'est pas en adéquation.
Votre budget, le budget de Château Versailles Spectacle est de 15 millions d'euros
environ. Oui.
Je le rappelais en introduction, aucune subvention, c'est-à-dire que vous vivez des recettes et du mécénat.
Oui, fondamentalement,
c'est
la recette du public, oui, et non pas ses impôts, qui payent les concerts qu'on fait. Et puis après, il y a une balance entre certains projets qui sont bénéficiaires et d'autres qui sont déficitaires, qui permet d'équilibrer le tout. Et puis un mécénat qui vient, mais avec honnêteté, il vient en complément, à exception faite des expos d'art contemporain qui, elles, parce que les artistes de ce domaine-là sont très porteurs de mécénat, peuvent s'autofinancer plus largement.
C'est un modèle économique assez particulier, ça, en France, non ?
Oui, c'est un problème assez simple. C'est le seul exemple que je connaisse, entre guillemets, d'un opéra, par exemple, ou d'une saison de concert de ce format-là, qui soit sans subvention. Oui. Mais en même temps, d'abord, c'est viable. Le lieu le permet. C'est aussi, je crois, une qualité forte pour cela. Et puis, réfléchissons sur un modèle d'avenir. C'est un modèle très courant en dehors de France.
Oui.
C'est un modèle presque exclusif aux États-Unis. Ça n'empêche pas des très grandes institutions d'exister avec les meilleurs artistes du monde. Bon, voilà.
Est-ce que vous produisez des opéras, des concerts ?
En production, c'est assez difficile dans ce cadre-là. Ça nous arrive, mais c'est plutôt de la coproduction, quasiment jamais de la production. Donc avec d'autres maisons qui, souvent, parce qu'elles sont plus riches ou mieux dotées, ou parce qu'elles ont tout simplement cette mission, eh bien on va faire créer chez elle, enfin c'est pas le mot, cela va se créer chez elle et ensuite ça viendra chez nous, donc en diffusion. C'est une manière de coproduire, mais produire serait difficile.
Est-ce que du fait d'être à Versailles, lieu prestigieux, est-ce que vous êtes très sollicité pour, est-ce qu'on vous propose énormément de choses pour animer Versailles ?
Oui, mais ça, je crois que c'est vrai de tout programmateur, partout. Et...
Enfin, Versailles, c'est quand même un lieu un peu spécial, on va dire.
Oui, mais dans les métiers que j'ai exercés précédemment, je recevais aussi beaucoup de propositions. Il y a illusion générale du fait qu'on peut tout programmer partout. En vérité, non, et peut-être pas spécifiquement à Versailles, mais avec encore plus de tours de vis chez nous, parce que oui... Les éléments que j'ai donnés auparavant font qu'on va restreindre le répertoire plutôt à du baroque, si possible.
Français, on va revenir là-dessus, si vous voulez bien, en deuxième partie de l'émission. On va écouter un extrait. Alors là, c'est Hervé Bugardetel, c'est Olivier Schnebeli qui dirige les pages et les chantres du CMBV. Un extrait de Domine Salvum. C'est un disque que vous offrez, c'est ça, aux spectateurs
qui est en vente et que
vous offrez aux spectateurs qui viennent le soir au spectacle. Un mot sur ce programme, Hervé Bugardetel.
Un mot sur ce programme, les pages et les chantres se font partie, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est le chœur issu de notre pôle formation, de notre école maîtrise.
C'est une
maîtrise qui accueille plus de 100 enfants et 17 adultes en formation professionnelle supérieure. Et de cette formation générale est issu un chœur, les pages et les chantres, formés de 20 enfants, très précisément, et de 17 adultes. Et ce chœur qui est spécifique et qui retrouve la composition des voix à la française, avec 5 tessitures de voix, travaille avec les orchestres dans le cadre des productions que nous mettons en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle nous les retrouvons assez couramment à Versailles, en dehors des auditions que ce chœur donne d'ailleurs chaque jeudi à 17h30, auditions ouvertes au public, gratuites. Pourquoi ? Parce que c'est très précisément le fruit de la pédagogie hebdomadaire de redécouverte, de déchiffrage, comme l'on dit dans notre métier, de la musique française, chaque semaine par ce chœur.
Charpentier, Domine Salvum par les pages et la chantre du CMBV, du Centre de musique baroque de Versailles, dirigé par Olivier Schnebeli, un disque paru chez Alpha. On entendra la saison 2013-2014 vient de paraître, Hervé Bugardetel. Il y aura des concerts évidemment à l'Opéra Royal à Versailles, mais il y aura des concerts également un peu partout en France. J'ai noté à Périgueux. Le grand projet de l'année prochaine, c'est les Danaïdes de Salieri, c'est ça ?
Oui, c'est l'une des belles... recréation initiée par le Centre de musique baroque de Versailles avec des coproducteurs et notamment en l'occurrence le Palazzetto Bruzzane, le Centre de musique romantique de Venise, puisqu'on travaille sur la fin du XVIIIe siècle. C'est la logique de coproduction que nous avons pour mettre en œuvre justement ces projets qui illustrent notre mission permanente de redécouverte, de vouloir vraiment défricher ou remettre à l'honneur aussi des œuvres qui ont été créées il y a 20 ans, mais dont il est important de réentendre aujourd'hui une interprétation par d'autres interprètes.
Le grand projet de l'année prochaine aussi, ça j'imagine que vous êtes tous les deux concernés, c'est l'année Jean-Philippe Rameau.
Oui.
De quelle façon Rameau sera-t-il présent à Versailles ? Qui veut répondre ?
Deux mots sur Rameau.
Rameau sera très présent ?
Assez présent. L'ouverture. Oui. L'ouverture, on peut le dire, je crois, Laurent, l'ouverture se fera à Versailles en février 14 avec une grande recréation, les fêtes de l'hymen et de l'amour, une tragédie en musique de Jean-Philippe Rameau, jamais rejouée depuis le XVIIIe siècle, que nous allons recréer, ou plutôt que le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet recréera au château de Versailles, avant d'être donné d'ailleurs au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, puis au Théâtre des Champs-Élysées à Paris. On est typiquement dans l'illustration au-delà de l'œuvre, à la fois du rôle joué par le Centre de musique baroque de Versailles, institution nationale patrimoniale, qui recrée une œuvre, et l'illustration également d'une collaboration avec le château de Versailles, puisque avant, en quelque sorte, de voyager en Belgique et puis à Paris, et peut-être même à Londres ultérieurement, cette œuvre est d'abord recréée symboliquement à Versailles pour ouvrir l'année Rameau.
Si je vous pose la question, c'est que lorsqu'on voit le programme du festival que vous avez imaginé il y a quelques années, Laurent Brunner, Vivaldi, un grand festival Vivaldi, Handel l'an passé, la musique baroque française, Lully, Rameau, ont été un petit peu dans l'ombre peut-être. Est-ce que ça accroche moins, c'est moins vendeur? Lully, Rameau et les compositeurs baroques français sont moins commerciaux, j'allais dire, que Handel ou que Vivaldi.
Oui, en effet. Oui. Ça, c'est pas une découverte. C'est, oui, comme Beethoven est plus vendeur que Mendelssohn en France. Uh-huh. Alors que Mendelssohn est un extraordinaire artiste. Oui. Alors, ça n'empêche pas de faire, et heureusement, beaucoup de Lully et beaucoup de Rameau toute l'année. Mais je ne pense pas qu'on puisse en faire
un... Le public qui vient à Versailles, c'est que c'est davantage quoi? C'est un public étranger, public...
Non, c'est un public essentiellement francilien, hein, pour simplifier. Il y a aussi des étrangers qui vont venir, mais ils vont venir sur des projets peut-être moins lié au compositeur qu'à l'interprète. Quand vous venez écouter Cecilia Bartoli ou Jonas Kaufmann, vous venez l'écouter lui, dans un programme, certes, mais vous lui faites confiance sur le contenu. C'est plus difficile d'imaginer ça pour l'instant sur Lully et Rameau, dont, pour être honnête, les stars, entre guillemets, du top 50 ou du top 10 s'emparent assez peu. Ça peut venir, hein, Agostino Stefani est revivifié en une seule fois.
Mais alors, dans le baroque, quand on a affiché Vivaldi, Handel, quelle autre grande figure peut-on imaginer tête d'affiche comme ça?
Je crois que ce n'est pas obligatoirement ça qu'il faut imaginer, parce que dans ce cas-là, on va faire un turnover tous les ans, puis on va vite tomber. Une fois qu'on aura fait Bach et Mozart, on aura fait le tour.
Mozart, vous pensez le faire à Versailles?
Je ne pense plus faire ça de cette manière-là. Je pense que le seul qui soit éventuellement customisable à vie, c'est Handel. Mm-hmm. Parce que c'est d'abord le mix de toutes les traditions, tradition française, tradition allemande, tradition italienne. C'est un vrai cosmopolite européen, c'est un génie absolu. Et c'est sans doute, pour tout le répertoire baroque, celui que le public adore le plus. Puis Handel le leur rend bien, parce qu'il y a de la musique tout le temps, pour le chœur, pour l'orchestre, pour les solistes, pour l'extérieur, pour l'intérieur, pour les fêtes, pour la religion, il y a tout. Bon, alors s'il fallait faire un festival à vie, ça serait sans doute sur Handel.
Vous parliez, vous l'avez abordé, le public qui vient à Versailles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'on sait si c'est le même public qui fréquente les salles parisiennes? Est-ce que c'est un public particulier attiré justement par Versailles? Est-ce que vous avez déjà des...
Si on parle que de la partie des concerts, on va dire qu'il y aura trois catégories de public. D'abord, il y a un public de proximité, parce qu'il y a beaucoup de gens qui habitent dans un rayon de 5 km et qui sont mélomanes. La deuxième réalité, c'est qu'effectivement, c'est fondamentalement un public de franciliens qui va aussi dans d'autres salles de spectacle, qui ne se réserve pas parce qu'il habite là uniquement, mais qui vient au TCE. Je pense que c'est plutôt TCE Play et l'Opéra de Paris, pour donner une référence. Ça ressemble à ça. C'est moins le public de la Cité de la Musique, quoique. Et c'est un public qui vient aussi de l'extérieur maintenant, non pas parce qu'il vient en touriste la journée visiter Versailles, c'est sans doute plutôt l'inverse. Il choisit de venir à un concert et il en profite pour visiter Versailles, parce que sinon, en termes d'organisation, ça ne fonctionne pas. Donc ça existe de plus en plus. Hein, la renommée de la chose fait que il y a un public de festival, comme il y en aura un, on va dire à Aix ou à Salzbourg, toute proportion gardée, bien sûr, mais qui commence à exister comme celui-là, oui.
Vous avez déclaré, Laurent Brunner, dans une interview au Figaro, « On doit éviter, je vous cite, on doit éviter la modernité non adaptable. Les noces de Figaro en blouson de cuir, ça n'est pas pour Versailles. »
Est-ce qu'il n'y a pas
un paradoxe entre... D'accord, donc pas de mise en scène, disons, d'options scéniques très radicales, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ça et le fait de programmer ou de faire des expositions Jeff Koons ou Murakami dans les jardins?
Sur le fond, non. Ce que je veux sûrement dire, plutôt, quand je dis éviter, c'est que le côté blouson de cuir nous permet de voir des mises en scène où, quand on n'a pas trop d'idées de travail sur les comédiens, on contemporanéise le décor et les costumes, et puis soudain, ça fait moderne et j'ai des idées. Bon. Oui, ça c'est vrai, quand c'est Peter Sellar qui le fait. Voilà. Quand je parle de Jeff Koons ou de Murakami, je parle des grands artistes de notre temps. Je pense qu'on connaît tous une grande catégorie de mises en scène qui sont faites, on va dire, un peu plus à l'Est qu'ici, beaucoup en Allemagne, où systématiquement, tout est contemporanisé avec des costumes tristes. Voilà, tout est vu sous un angle. Je ne pense pas que le public vienne spécialement pour ça. Et par exemple, on parle de Rameau. Je pense qu'on peut aussi traiter tout Rameau uniquement avec des imperméables et des tanks, mais ça va être difficile. Mmh. Est-ce que ça aura du sens? Et si la difficulté est d'être fidèle, entre guillemets, dans le principe, au travail de Rameau ou de Lully ou de Händel, eh bien, elle peut passer peut-être par des systèmes de reconstitution, comme l'a fait régulièrement le Centre de musique baroque. Reconstitution non seulement des instruments maintenant, ça on sait le faire, on va dire c'est commun maintenant, ça l'était pas il y a 50 ans. Des décors, des costumes, et éventuellement de la manière de jouer, de la manière de prononcer, ça c'est un chantier encore en cours. Ça veut pas dire qu'on fait dans la naphtaline pour autant, mais qu'un bon metteur en scène n'est pas obligé de passer par la modernité pour faire passer les Noces de Figaro, qui sont quand même puissamment ancrées dans une époque. Certes, on peut les voir sous des visages plus modernes, mais le visage ancien ne changera rien à la qualité du travail qui est à faire. Faire sortir par la musique le jeu des comédiens, puisque c'est ça.
Vous dites aussi un théâtre se doit de pouvoir programmer autre chose que les œuvres contemporaines à sa construction, sinon il lasse. C'est-à-dire que
absolument.
Vous allez, si vous avez envie de jouer Carmen, vous le ferez à l'Opéra Royal.
Bah absolument, d'autant qu'on y joue Lully et que ça a été construit un siècle après sa mort.
De la musique contemporaine ?
La musique contemporaine, pour être très honnête, elle attire difficilement le public. Je ne serai pas critique, parce que ça ne voudrait rien dire, mais on aura un peu de mal à trouver une grande œuvre contemporaine. Si je devais en monter, j'aimerais bien monter Les Fantômes de Versailles. The Ghost of Versailles.
De John Corigliano, c'est ça ?
De Corigliano, qui a fait l'ouverture du Maître Rénové et qui serait un ouvrage parfait pour parler de Versailles. Ou bien d'autres, je parlais récemment de Marie-Victoire de Respighi, qui n'a jamais été créée en France, qui est quand même le grand opéra en français de Respighi. Voilà, ça, ce sont des œuvres qui m'intéressent.
Il y a des choses que vous tenez vraiment à programmer, Hervé
Le Caloutel, pour venir en appui
et qui trouve pas preneur,
de mon ami Laurent, je dirais que si on voulait jouer tout ce qui s'était fait à Versailles dans l'Opéra Royal, il y aurait très peu de choses, parce que l'Opéra Royal a été construit en 1770.
Contemporain de l'époque.
Quand on y joue du Lully ou du Marin Marais, on est bien avant. Alors, pour nous, nous avons, en tant que producteurs, Centre de musique baroque de Versailles, producteurs, nous avons là, pour le coup, dans notre métier de producteur avec d'autres, des orientations artistiques quelquefois tout à fait affirmées. Notamment, dès que nous abordons avec des partenaires des ouvrages mis en scène, c'est une direction vraiment dont je suis convaincu. Je veux dire par là que lorsqu'on recrée une œuvre qui n'a pas été rejouée depuis plus de 2 siècles, il est, je crois, très important, pour une fois, pour sa recréation, de la donner au public à voir et à entendre dans des conditions qui sont proches de celles de sa création au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'était la plupart du temps ce que l'on appellerait aujourd'hui un spectacle total. On entend la musique sur instruments anciens, il y a la danse, il y a la machinerie de théâtre, il y a le système du théâtre à machine, des toiles peintes qui changent à vue devant le public.
Et que l'Opéra Royal aujourd'hui permet, grâce aux travaux qui ont été menés, l'un des lieux qui
peut accueillir en tant que programmateur ce type de proposition artistique d'un producteur.
Alors Laurent Brunier va vous répondre, je cite toujours dans une interview aux Échos, que pour tordre le cou aux conventions, il faut par exemple jouer Armide de Lully sans le prologue.
Oui, c'est ce que...
Musicologiquement correct.
Le prologue, il avait beaucoup de sens du temps de Louis XIV, puisqu'il s'adressait au roi. Après, on ne l'a plus joué avec le prologue.
Mais il est très beau au demeurant.
Certes, mais il n'y a aucune obligation à le jouer en tant que tel, parce qu'il perd le public dans une histoire qui n'a pas de sens avec la suite. Donc, si le metteur en scène et le chef d'orchestre ont décidé de faire ça, ils n'en sont pas moins respectueux. Et quand cette Armide a été jouée à Versailles, certes sans le prologue, c'est la première fois de toute époque qu'on la représentait. Et le hasard ou le malheur fera que c'était par des Canadiens anglophones qui avaient monté ce projet. Je trouve ça, quelque part, un vrai hommage à la fois à Lully, au travail que mène le centre depuis très nombreuses années, parce que c'est comme ça qu'on a défriché un terrain et qu'ensuite ça pousse de tous les côtés. Et que maintenant on le retrouve monté ailleurs et les mêmes vont faire percer. Ma foi, donc, certes, peut-être pas de prologue, mais je ne crois pas que ce soit la question majeure.
Donc c'est vous qui voyagez dans le monde, allez écouter des opéras, des compagnies qui, pensez-vous, pourraient convenir, pourraient rentrer dans le cadre de votre programmation à Versailles.
Je crois qu'aujourd'hui, on a un effet de balancier à l'envers. Il y a 50 ans, la musique ancienne française, elle était faite par Arnoncourt, par Léonard, c'est-à-dire essentiellement par des étrangers. Oui. Puis est venue une grande génération française au fur et à mesure. Et aujourd'hui, Minkowski, Rousset, Schnebeli, Christie, qui est français, si je puis dire, font cette musique magnifiquement. Le défaut de ça, c'est qu'on oublierait un peu vite que dans d'autres pays, mais très loin d'ici, des gens se donnent beaucoup de mal pour le monter. Et cette année qui vient, on va accueillir 2 productions assez drôles de Washington, où Opéra Lafayette va monter Così fan tutte, mais en français, et Les Femmes vengées de Philidor, un opéra comique très proche, créé 20 ans auparavant, eh bien, ça nous vient de Washington.
Così fan tutte en français par une compagnie américaine.
Bien sûr, d'accord. Avec des chanteurs très francophones.
C'est dans la saison 2013-2014 de Château de Versailles Spectacle.
2 œuvres en miroir.
Merci beaucoup.
Et à l'inverse, nous coproduisons avec l'Orfeo Orchestra à Budapest un autre opéra de Rameau.
C'est la fin, c'est le mot de la fin. Merci à tous les deux d'être venus parler de cette saison. On a évoqué en tout cas, sachez que sur le site Château de Versailles Spectacle, vous avez toute la programmation 2013-2014, cmbv.fr, où vous avez tous les programmes également et la description des activités du Centre de musique baroque de Versailles. Merci à toute l'équipe aujourd'hui, Nelly Portal, Benjamin Vignal et Éric Lancien. Bonne soirée, à samedi prochain.